Pierre Goubert, je crois, il a achevé sa thèse à la fin des années 1950, a fait une œuvre de pionnier. Il abordait un domaine qui jusque-là avait négligé, méprisé même.
La radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans Transhistorien, l'émission d'histoire de Transhistor. Je suis aujourd'hui avec Anna. Bonjour Anna.
Bonjour Clément.
Et à l'occasion de la journée Pierre Goubert, organisée à l'ENS, nous avons le plaisir de rencontrer l'historien Maurice Gardon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc vous êtes un ancien professeur de l'université de Lyon 2, vous avez aussi enseigné à l'ENS de Cachan, et vous êtes un spécialiste d'histoire urbaine et d'histoire de la démographie. Alors de Lyon, ville à laquelle vous avez consacré votre thèse, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, vous avez exploré d'autres terrains, puisque vous avez notamment participé à l'histoire de la population française dirigée par Jacques Dupaquier. Vous avez aussi consacré des travaux à la manière d'habiter la ville à la fin de l'époque moderne et à l'époque contemporaine. En 2008, vous avez publié « Un historien dans la ville », qui est en fait un recueil des articles que vous avez écrits lors de vos années de recherche. Et plus récemment, vous avez dirigé avec Jean-Luc Pinol, qui était professeur ici et qui a pris sa retraite l'an dernier, un gigantesque atlas de Paris et des Parisiens, donc de la Révolution jusqu'à nos jours. Alors, vous avez commencé, vous avez consacré votre thèse à Lyon. Et Lyon, c'est une ville qui, alors au XVIe siècle, est capable de tenir tête au pouvoir royal, qui devient protestante et qui est tenue par les protestants pendant plus d'un an. Et au XVIIIe siècle, même si c'est la deuxième ville du royaume, vous expliquez dans votre thèse, en conclusion, que son poids est finalement faible, que son poids politique est faible. Et vous parlez, là, je trouve la formule assez marquante, d'une ville qui, au XVIIIe siècle, est sans histoire, sans responsabilité, qui est une sorte de cité oubliée. Qu'est-ce qui est donc arrivé à Lyon au XVIIIe siècle pour se retrouver dans une telle position ?
Je vous rassure, d'une part, je ne suis pas lyonnais. je suis arrivé à Lyon par hasard, comme étudiant. Et je suis tombé sur un professeur, qui n'était pas Labrousse, mais qui était Pierre Léon, qui était professeur à l'Université Lyon 2, et qui, lui, a balayé tout ce qui était les antiques professeurs de l'université, qui a créé un centre de recherche, qui a attiré des gens à faire des mémoires, on appelait une maîtrise à l'époque, puis des thèses, et qui a poussé, qui a créé une véritable école autour de lui, de gens qui sont restés à Lyon, qui ont été formés comme historiens à Lyon, sans mettre les pieds à Paris. J'ai mis les pieds à Paris pour la première fois de ma vie, le jour où j'ai passé l'oral de l'agrégation. C'est pour vous dire. Non sans avoir été collé avant au concours de recrutement des grandes écoles où vous êtes. C'est pour ça que je suis resté à Lyon et j'aime bien Lyon pour ça. Parce que je suis resté à Lyon, je me suis marié à Lyon.
Bah, c'est une ville à laquelle vous êtes
etc., très attaché. Etc. Donc, pourquoi Lyon a tout perdu? Je dirais parce que, comme l'avait expliqué assez bien celui qui fut mon collègue, Richard Gascon, une ville de grand commerce, une ville d'industrie à partir du XVIe siècle, c'est le fait du pouvoir marchand et de la richesse marchande qui a fait que Lyon est resté une ville marchande. Il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de grand... Il y avait une académie sans doute, mais il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de grand nom, il n'y avait pas de vie intellectuelle, il n'y avait pas de pouvoir politique, puisque le maréchal de Villeroy qui gouvernait la ville était quand même un an de bâté quand même, c'était pas un grand homme, et même s'il avait servi de précepteur à des rois. Et donc Lyon est resté enfermé, j'allais dire, une des modes actuelles de l'histoire est de dire que le rôle du marché, le rôle du marchand est une sorte de libération par rapport à l'aristocratie, Laurence Fontaine, mais je pense qu'à Lyon, c'est pas vrai. À Lyon, le marchand continue à être dominant avec plus que le marchand, parce que c'est aussi une manufacture, c'est aussi des marchands fabricants, c'est pas simplement des marchands, c'est aussi un monde ouvrier, c'est un monde tout à fait particulier. Alors, bon, j'ai adoré travailler sur cette thèse, dans des conditions qui étaient celles de l'époque, avec des archives plus faciles à utiliser qu'aujourd'hui, mais mal organisées, malgré tout, avec beaucoup d'escaliers pour monter, si vous connaissez les archives départementales telles qu'elles étaient avant d'être derrière Lapardieu. Et c'était un exercice qui j'ai moins de bedaine qu'aujourd'hui. On montait beaucoup d'escaliers. Les archives étaient ouvertes, on pouvait presque y passer la nuit. Les archives municipales, je ne vous dis pas, elles étaient dans les combles de l'hôtel de ville. C'était une poussière invraisemblable. Mais on y trouvait l'enregistrement, on y trouvait les premiers registres de la Révolution sur les codes foncières immobilières, un document formidable dans une ville où... alors, j'allais dire, l'avantage, la ville devenait un sujet à la mode, avait, pour ainsi dire, pas encore été traitée, puisque Dayon, c'est en même temps, Perrault, c'est en même temps, mais il prenait plus son temps que moi, il a mis beaucoup plus longtemps. Et moi, Léon était un type formidable pour ça, il vous bousculait, il disait, il faut travailler, donc j'ai travaillé, j'ai rempli des masses de documents à partir des archives notariales, des archives fiscales, de la démographie, ce qui n'était pas facile à Lyon, même Goubert, dont on parlera, sur Beauvais, il ne s'est pas attaché. Il est resté à la porte des archives des registres paroissiaux de Beauvais.
Vous parlez des sources et je crois que...
Oui, parce que justement, donc vous faites de l'histoire démographique qui se veut aussi, si j'ai bien compris, une histoire sociale qui montre bien tous les individus et la spécificité de différentes parties de la population tout au long donc, du XVIIIe siècle dans votre thèse et parfois dans d'autres époques. Mais donc, avec quelles sources, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais précisément, peut-on faire de l'histoire démographique à la fin de l'époque moderne? Parce que c'est vrai que pour l'époque contemporaine, on a les recensements de la population. Mais
alors, pour l'époque moderne, il y a partout où ça existe, c'est-à-dire presque partout sauf à Paris, les registres de catholicité ou registres paroissiaux, pour parler plus simplement, sont une source fondamentale, puisque toute l'école démographique, depuis Goubert, mais aussi Henri, aussi les gens de Lined, aussi les historiens démographes et les démographes proprement dit, ont travaillé sur la base de la famille à partir de registres paroissiaux. Or, le registre paroissial n'explique pas ce qu'est une famille. C'est déjà une reconstitution. Hein, et les historiens sont passés de l'individu à la famille pour en faire le nœud de l'histoire démographique, ce qui était plus social. Dès qu'on est famille, il y a des liens, il y a des réseaux, oui. Il y a des contrats de mariage, il y a des actes de mariage aussi, il y a toute une série de documents qui touchent. Et parmi les rares choses mais qui n'ont pas été toujours exploitées, l'analyse des témoins. Des témoins aux actes de mariage, des témoins aux actes de baptême, des témoins des parrains et marraines, des témoins aux actes d'état civil et autres.
Ça permet de retracer des sociabilités,
de trouver les réseaux,
de
les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, les réseaux de voisinage, et de retrouver la structure d'une vie que l'individu lui-même ne permet pas de trouver. Donc la démographie historique, elle est un peu en recul aujourd'hui parce que on n'a rien trouvé de nouveau. La ville reste, Paris reste très difficile. Et les recensements sont une autre forme. Les recensements, je continue à travailler dans ma vieillesse avec les recensements parisiens. Les Parisiens étant des gens extraordinaires, ils ont brûlé les registres de recensement du 19e siècle.
Oui, c'est lors de l'incendie de l'hôtel de ville.
Non. L'incendie de l'hôtel de ville a eu lieu en 1871. Les registres qui ont brûlé entre 1872 et 1926, ce n'est pas l'incendie de l'hôtel de ville.
Oui,
c'est l'infélicite des archivistes parisiens hein, qui n'ont pas fait l'effort de garder. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. On a une ville où ce n'est qu'à partir de 1926 qu'on peut reconstituer réellement. Daniel Roche reconstituait la ville de Paris au XVIIIe siècle plus facilement qu'on ne peut reconstituer celle de Paris au XIXe siècle, où on n'a plus que les publications des résultats.
D'accord.
Alors, à partir de 1926, c'est formidable, c'est extraordinaire. Moi, j'y passe mes jours et mes nuits, mais bon, la vue baisse.
Donc justement, vous nous parlez beaucoup de Paris, donc vous avez expliqué que vous avez commencé à travailler sur Lyon, peut-être un peu par hasard, finalement.
C'est parce que j'étais lyonnais.
Voilà, parce que vous étiez lyonnais.
J'étais venu à Lyon en préparation en Hippocagne, venant du Jura. Comme Daniel l'expliquait tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était qu'une Hippocagne.
l'époque, hein, je ne savais pas ce que c'était qu'une école normale supérieure. C'est quand j'ai passé l'oral du baccalauréat, le professeur de philosophie, qui m'a dit, et qui a dit à mon père, qui m'accompagnait, parce que c'était pareil, ce n'était pas dans la norme de ma famille, il a dit à mon père, il faut l'envoyer en Hippocagne. Et quand on habitait Besançon, ou Dole, dans le Jura, ou bien non, on venait à Lyon. Et on avait, ce que j'ai entendu dire aussi si souvent, on arrivait à Lyon, au lycée du Parc, où le prof d'histoire, qui était un épouvantable personnage par ailleurs, mais il vous disait, vous êtes l'élite de la France du Sud-Est. On n'était l'élite rien du tout, on n'était l'élite rien du tout. Comme disait Daniel Roche aussi, on savait à peine le latin, on savait mal le grec, ou pas du tout même. On a passé du temps à l'apprendre, c'était pas drôle. On s'est fait coller, les meilleurs ont réussi. Mais c'est pareil, le lycée du Parc, il ne s'est pas beaucoup amélioré depuis, mais c'était affreux. Dortoir à 38 lits. Dortoir à 38 lits. La première année, l'Hippocagne. Année 52, année 52, même au service militaire, j'ai pas connu ça. C'était moins, il y avait moins de lits. Mais là, c'était affreux. On partageait le lit avec les gens qui préparaient l'école de Saint-Cyr. C'était impossible, impossible de vivre ensemble. Mais bon, on a fait ça, on a réussi à s'en tirer parce qu'on travaillait quand même, que la faculté était beaucoup plus accueillante que le lycée. Et que on a eu. Et ça, c'est contrairement à ce qu'on peut dire de Lyon, on a eu un groupe d'étudiants qui faisaient ce qu'on raconte sur les grandes écoles. On se travaillait ensemble, on se partageait les cours, on se faisait des petits briefings entre nous sur une question, on se prêtait les livres. Quand il y avait un sujet sur, là aussi, les Provinces-Unies au XVIIe siècle, il y avait un affreux qui connaissait le hollandais, qui avait piqué tous les livres. On s'en foutait, nous, on ne savait pas le hollandais. Et donc, et c'est lui qui a été collé, nous, on était reçus.
Et donc, vous avez commencé à travailler à Lyon, enfin, sur Lyon, parce que vous êtes lyonnais. Pourquoi est-ce que vous êtes passé à Paris ensuite, avec la classe?
Je suis passé à Paris parce que j'ai eu une vie plus compliquée. Plus compliquée, non, mais un peu, j'ai un peu trahi l'université pour toutes sortes de raisons, parce que d'abord j'ai été professeur très jeune par rapport aux normes de l'époque. J'étais professeur à Lyon 2, j'avais 35 ans je crois, ce qui était plus jeune que la plupart des professeurs titulaires, parce que j'avais été protégé, bon, peu importe.
Et aujourd'hui,
à peine là, j'ai été élu vice-président, j'ai été élu directeur de l'UFR dans la réforme de l'UFR d'histoire-géographie, et vice-président de l'université chargé de la recherche. La recherche qui n'existait pas. Enfin, c'était quelque chose qui était un mot malpropre à l'université jusqu'à là. Et chargé de cela, j'ai en plus eu la chance que ma thèse a été publiée en. Dans les collections de la Ligue de Poche, dans Flammarion, Science, ou je ne sais pas quoi, et que ça, les Parisiens savaient que j'existais. Donc, quand M. Mitran a été élu président de la République en 81, j'ai des amis qui m'ont appelé à Paris, qui m'ont dit viens au ministère, on y est, et on a besoin de gens comme toi. J'étais aucun parti politique, au SNESUP, oui, mais c'était pas facile, le SNESUP, avec. Les gens du PC n'étaient pas très facile, pas très commode à vivre. Et quand ils disaient camarades, on va voter, c'était quand tous les autres étaient sortis. Et donc, je suis allé à Paris, et depuis 81, année d'inauguration du TGV, jusqu'à ma retraite en 2002, j'ai passé mon temps dans le TGV. Et entre Paris, donc Lyon, de moins en moins, et Paris de plus en plus, jusque. Quand en 93, j'ai demandé à ma femme de quitter Lyon et de venir à Paris parce que j'en avais marre de faire le TGV. Et elle aussi considérait que je rentrais à l'hôtel le dimanche.
Mais donc, c'est ça qui vous a amené à travailler sur l'Atlas des Parisiens également?
C'est ça qui m'a. C'est Pinol qui m'a amené à travailler sur l'Atlas des Parisiens, parce que Pinol, que je connaissais depuis longtemps comme étudiant d'abord et puis comme prof après, quand j'ai pris ma retraite, il est venu me voir, il m'a dit « Tu ne vas pas t'arrêter, tu vas travailler, on va travailler ensemble sur Paris. » Et donc...
On l'imagine volontiers.
J'ai travaillé, j'ai travaillé. Lui aussi, mais j'ai travaillé, lui faisait les cartes. Vous savez, son goût et son amour pour
sa grande passion pour
les cartes. Et donc, on a travaillé, on a énormément travaillé, j'ai adoré. Et je continue, lui, il s'oriente sur Shanghai, il fait de plus en plus de cartes. Moi, je suis un peu à la limite dans la crise actuelle des études d'histoire de type social, socio-économique, socio-démographique, etc. On est un peu des vieux, on est un peu des gens d'une autre génération, et c'est plus difficile. Actuellement, on a fait avec Pinol un autre livre sur New York Paris, dont notre éditeur ne veut pas. Parce qu'il est trop sérieux. C'est pas...
Ça correspond pas à ce qu'il veut vendre.
Oui, c'est pas comme il s'appelle, celui qui vient de vendre 2 millions d'exemplaires.
C'est pas Laurent Deutsch.
Oui, Laurent Deutsch.
Ah oui, donc c'est pas vendeur.
On n'est pas capable d'écrire comme Laurent Deutsch. Il a vendu à 2 millions d'exemplaires.
Avec beaucoup de coquilles, semble-t-il. Coquilles et d'erreurs.
Il y a un très beau texte sur Wikipédia de... Je ne sais pas s'ils viennent de gens de votre génération, de votre groupe, mais qui disent, plutôt que de lire Laurent Deutsch, lisez donc la tasse des Parisiens. Et c'est vrai que c'est plus difficile.
Ouais, il est très beau cet atlas. Hein. Il y a très belles illustrations, des grandes cartes.
On a beaucoup aimé faire ça. Beaucoup aimé. Et en fait, en plus, l'éditeur est un très bon éditeur. Il a fait un beau bouquin. Et vite.
Alors... On va revenir un petit peu en arrière par rapport à l'Atlas. C'est une question un peu de parcours, puisque comment êtes-vous venu à faire de la démographie, vraiment, dans les années 60, 70, 80?
C'est vraiment tout à fait par hasard, parce que, d'abord, c'était pas fait, parce que, en lisant les premiers, Louis-Henri... on a vu que Louis-Henri, le premier bouquin de Linnéen, on voyait qu'il y avait un moyen par les registres paroissiaux. Et jusqu'à en gros mois, on n'avait vu que du village. On n'avait vu que du village et j'ai trouvé que ça valait le coup d'essayer de voir en ville ce que c'était. Sans me rendre compte que c'était impossible. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de la bonne démographie historique. J'en ai enseigné de la bonne, mais j'en ai pas fait de la bonne parce que c'était difficile de faire. Si vous voulez, aujourd'hui, on est en train d'aller vers la numérisation, vers des formes tout à fait différentes de traitement des sources. Quand actuellement je travaille sur Paris, que je rencontre des juifs polonais. En 1926 ou 31, qui échappent aux pogroms chez eux, qui viennent comme fourreurs ou comme tailleurs à Paris. Et je les rencontre dans le recensement 1926, parfois de 31, et je les cherche en 36. Je ne les cherche pas en 46, je sais qu'ils ont disparu. Là aussi, Pinol a fait des choses très bien là-dessus. Mais en 36, je ne peux pas savoir s'ils sont encore là, parce que c'est impossible de le savoir. Dans les... milliers de pages, 100 000 pages par recensement, pour le recensement de Paris de 1931, avec aucun dictionnaire des noms propres. Et aucune façon de savoir si le type a déménagé. Même d'une rue, on ne le retrouve pas. C'est impossible de le retrouver. Et donc là, il y a quelque chose qui reste un des objets d'une démographie historique qui serait à reprendre sur la mobilité. Mais pour ça, il faut passer par ce que les Américains ont fait, une numérisation des recensements.
Oui, ça offre des perspectives quand même nouvelles, bien sûr, intéressantes.
Ça, il faudrait le faire. Hein. Sans quoi, pour le moment, on ne peut pas.
Et donc justement, on a une question à celui-là. Donc vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu d'une autre génération en tant qu'historien de la démographie. Vous dites aussi dans l'introduction de votre thèse que... à l'époque où vous l'avez fait, l'utilisation de l'informatique pour la démographie est encore très très restreinte. Et comment l'irruption de l'informatique à partir des années 80 a pu modifier la manière de faire l'histoire quantitative? Est-ce que ça a modifié votre travail à vous?
Quand j'ai pris ma retraite, on m'a offert un ordinateur.
D'accord.
Est-ce que c'est une réponse? Autrement dit, jusque-là, ce que j'ai fait, quand j'ai fait ma thèse sur Lyon, j'ai fait le système des fiches perforées, qui était encore celui qui était fait pour les recensements jusqu'en 36 ou moins. Et donc j'ai fait imprimer des fiches cartonnées pour dépouiller les registres, les actes de mariage, les contrats de mariage en particulier. J'en ai fait, je ne sais pas combien, 10 000, 15 000. Et j'avais des épingles, je faisais des trous, je triais comme ça. C'était la mécanographie, comme on disait à l'époque, comme disait Bertin, les premiers qui l'ont fait. Alors aujourd'hui, ça passe complètement stupide, enfin, de ne pas faire ça autrement. Mais je répète, tant que les actes des notaires et que les actes d'état civil ne sont pas numérisés, on ne peut pas faire encore véritablement utiliser.
Parce qu'il y a en termes de quantité, ça représente quelle masse
ben, c'est énorme, hein. Oui. c'est absolument énorme. Je dis, même Lyon, je n'ai pas en tête, mais ça devait être quelque chose comme 4000 naissances par an, quelque chose comme ça, répartis sur une douzaine de paroisses, avec là aussi des possibilités de changement de localisation d'une paroisse à l'autre. C'est extrêmement difficile. Alors, j'avais fait quelques petits échantillons. J'ai fait un truc sur les familles consulaires parce que c'était gardé à part. Il y avait dans les archives un notaire qui avait fait ça avant moi. Et j'ai fait quelque chose sur les bouchers parce que les bouchers, ils avaient tellement d'enfants que même Goubert en tombait par terre quand je lui disais que j'en avais trouvé un, qui avait 21 gamins, qui avait eu 21 gamins. Il me disait, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et je lui disais, vraiment, c'était tout à fait étonnant. Donc j'ai fait des expériences et des sondages. Et puis après, quand j'ai été nommé à l'université en 69, après ma thèse, j'ai ouvert un cours de démographie historique puisque je n'avais pas le droit de faire autre chose. Les maîtres de conf s'étaient distribué le travail, c'était eux qui faisaient les cours. Moi, j'avais ouvert un petit truc pour avoir la peine en moi. Et ce n'était pas drôle à l'époque. Aussi. Ma première année d'enseignement, c'est pas de lycée. Je faisais les travaux pratiques de M. Gascon sur le XVIe siècle, auquel je ne connais rien, et je ne savais pas sur quoi il faisait cours. J'avais 130 étudiants. J'avais 130
étudiants. C'est
très commode. Mais bon, j'ai fait un truc de démographie. Là, j'ai appris de la démographie. Et j'ai eu en plus la chance qu'est arrivé à Lyon un collègue sociodémographe qui s'appelait Jacques Macou, qui était professeur de démographie à Lyon, avant d'être directeur de l'INED par la suite. Et on faisait cours ensemble. On faisait cours ensemble et c'était délicieux parce que lui, il connaissait la démographie, il était statisticien, il était polytechnicien d'origine. Et moi, je faisais de la poésie sur la démographie littéraire et c'était très très bien. On a eu vraiment, je crois, de la chance de faire quelque chose. Ça, j'ai regretté de l'avoir abandonné.
Et vous parlez beaucoup de Pierre Goubert. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation que vous entreteniez avec son travail, avec lui?
Alors, avec lui, j'ai lu. Et autrement, je l'ai rencontré le jour de ma soutenance de thèse.
Il était dans votre jury de thèse.
Il était dans mon jury de thèse.
Oui, vous en parlez.
Et toute la sympathie que j'ai pour lui vient de ça. Je ne l'avais jamais vu. Il était dans mon jury de thèse. Et la veille au soir, il a téléphoné chez moi à 10h du soir en disant, ici Pierre Goubert. Et il m'a dit, je vous téléphonais pour vous dire que demain, ça se passera bien. Chose que je ne voyais pas, ni M. Mounier, ni M. Tapier, ni même Labrousse.
Ni même
Labrousse. Oui.
Et lui vous a appelé pour vous dire.
Et je ne l'avais jamais vu.
Wow,
c'était la première rencontre que j'ai faite avec lui, c'est toujours de la soutenance de tête. Donc ça, on garde une. Et en plus, c'est le premier qui, après, m'a invité à faire un cours à la Sorbonne, m'a invité avec Mandrou. Mais c'est le premier contact que j'ai eu avec.
Donc c'est grâce à Pierre Goubert.
Mais son travail, sa méthode à lui vous a beaucoup influencé ou pas forcément?
Non, parce que c'est quand même si je dirais le contraire cet après-midi, c'était quand même
cet après-midi à l'occasion de la journée ou
pluraliste. Mais c'est vrai que je dis toujours que quand on lisait même les pages sur la ville, c'est des pages exceptionnelles. C'est des pages exceptionnelles. beaucoup mieux que des gens qui ont fait des choses théoriquement dessus, et c'était moins vivant, moins attrayant,
moins
sympathique.
À vous entendre, on a vraiment l'impression que Pierre Goubert faisait vivre les choses, oui, quand il vous parlait de vin, quand il vous parlait de repas.
Tout,
quand
il... tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'était un homme sympathique. En plus, on a eu la chance d'être son voisin à Paris dans ces dernières années. On habitait très près l'un de l'autre, on se voyait. Mais il était devenu un homme. On ne pouvait plus communiquer, il était sous.
D'accord. Et pour terminer, même question que nous avons posée à Daniel Roche tout à l'heure. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes historiens?
Moi, j'ai vécu au cours des 30 dernières années beaucoup dans le milieu de l'administration de la recherche, de la politique de la recherche, administration et politique. Et j'ai vu progressivement diminuer le rôle de l'histoire et des historiens. Et je vois de plus en plus attaquer les disciplines au nom d'un savoir universel, de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, tout ce que vous voulez, à condition que ce ne soit plus discipline. Alors la première chose que je dirais aux historiens, c'est faites de l'histoire. Faites de l'histoire, ne faites pas de la bouillie. Faites de l'histoire, et c'est quand on a fait de l'histoire qu'on peut discuter avec les sociologues, avec les psychologues, avec les littéraires, voire même avec des scientifiques qui ont parfois d'autres méthodologies à nous proposer, à nous aider. Mais si on n'est pas allé au bout d'aller voir ce qu'étaient les documents avec lesquels on fait de l'histoire, si on n'a pas creusé le terrain d'historien, on ne pourra pas faire de transdisciplinarité. Moi, ça me hérisse chaque fois qu'ils entendent dire que dès la licence, pourquoi pas dès l'école primaire, il faut faire de la transdisciplinarité. Non, il faut en faire, bien sûr, il faut prendre l'habitude de parler aux autres, de parler des autres, de parler aux autres, d'entendre ce que font les autres. Mais si on n'est pas soi-même spécialiste d'une discipline, on n'apporte rien aux autres. On apporte le Dutch. Je suis navré. Et c'est malheureusement ça. À la télé, à la radio, c'est souvent ça. L'autre jour, j'ai vu des jeunes qui sont venus nous voir, ma femme et moi, plutôt ma femme que moi d'ailleurs, parce qu'ils sont plus spécialistes d'art que moi, parce qu'ils vont faire une série télévisée sur le XVIe siècle et sur François Ier. Ces gens qui allaient faire une série télévisée ignoraient tout de l'histoire, mais tout. François Ier, il l'aurait mis au Moyen-Âge, comme au XIXe siècle, ils n'en avaient rien à faire. Et ces types, ils vont faire une série télévisée regardée par 3 millions, 4 millions de Français.
Oui,
c'est l'histoire, il perd sa rigueur, il perd sa vie, ça. Il ne faut pas céder.
Et sa saveur.
Alors, à part ça, il ne faut pas qu'il y ait trop d'historiens, parce que tant qu'on n'aura pas décidé qu'ils peuvent faire autre chose que d'histoire ou chercheur, il faut ouvrir les concours administratifs et l'entreprise privée aux historiens,
fait
une thèse d'histoire.
Donner d'autres perspectives que l'enseignement et la recherche.
Ça. On a été, si vous voulez, on a été fermés parce qu'il y a eu on a eu la chance d'avoir. On ne s'est pas posé de problème, on avait des postes, on était. Et au lycée et à l'université, on n'a eu aucun problème. Nous, on était dans une génération qui montait. Aujourd'hui, je sais que les gens ont beaucoup de problèmes. Le nombre des docteurs a beaucoup augmenté. Et le nombre des places, c'est plutôt en train de réduire. Et donc, il faut ouvrir absolument. J'allais dire qu'une association d'anciens élèves de l'école normale, il faut qu'elle s'occupe de ça. Il faut en faire un lobby, comme le font les élèves de Polytechnique ou de HEC.
On espère que vous serez entendu, parce que c'est vrai que la question de l'agrégation à l'école est une question sensible, comme la question après de que fait-on après l'école. Merci beaucoup, Maurice Gardone, pour cette rencontre. Un entretien qui a été réalisé à l'occasion de la journée Pierre Goubert, le 13 octobre à l'ENS. Et comme pour l'entretien avec Daniel Roche, je voudrais remercier l'association des anciens élèves et Thibaut Poirot, qui a contacté Transistor et qui a rendu possible cette rencontre.